Bonjour à ceux qui sont un peu plus loin derrière un écran. Et je vous propose de prier pour introduire ce culte. Seigneur, c'est toi qui nous accueille ce matin avec la promesse de ta présence. Viens nous rejoindre au cœur de nos situations et de nos parcours de vie. Amen. Je commence par deux ou trois annonces. C'est la vie communautaire. L'Église, ce n'est pas seulement chacun pour soi, c'est vraiment vivre quelque chose ensemble. Donc, le prochain repas communautaire aura lieu le dernier jour du mois de mai, donc le 31, dernier dimanche, repas canadien avec des discussions autour du thème de la prière communautaire. Parce que vous savez qu'on a essayé différentes méthodes de prière communautaire et on n'a pas toujours beaucoup de monde et c'est pourtant un lieu important de la vie d'Église. Il y a les programmes qui sont disponibles à l'entrée, je ne l'ai pas pris, et puis l'offrande de printemps de la FRAE. La FRAE, c'est notre fédération d'Église et elle nous propose cette fois une offrande pour l'accompagnement des pasteurs. Alors pourquoi ? Parce que les pasteurs, ils ont un métier qui n'est pas simple. Ils doivent porter beaucoup de situations, des situations difficiles, personnelles, de beaucoup de gens, sans pouvoir en parler, parce que c'est confidentiel. Ils ont des fois des attentes monumentales de la part des communautés et un pasteur ne peut pas répondre aux attentes de tout le monde. Et ils ont besoin de lieux d'écoute. C'est pour ça que la FRAE a mis en place une personne qui est un peu le pasteur des pasteurs pour qu'ils aient ce lieu d'écoute et qui doit être naturellement financé et vous propose dans cette offrande de participer à cet effort. Voilà, il y a un petit feuillet comme ça qui est disponible. Bon, j'en ai vu que deux exemplaires, je ne sais pas s'il y en a plus. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes en forme ou si vous avez la pêche. Alors, parfois oui, parfois non. Et on sait que plusieurs parmi nous sont affectés soit par la maladie ou la maladie d'un proche ou bien un deuil. Et le deuil, ça dure longtemps. Ou bien des problèmes au travail ou bien des problèmes de couple ou de vie sentimentale. Et ça, c'est parmi les choses qui nous affectent le plus profondément dans notre être, dans notre envie, dans notre courage pour avancer dans la vie. Puis il arrive parfois qu'une simple remarque qu'on nous a faite, même pas méchante du tout, mais nous coupe la chic pour toute la journée. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Voilà. Alors, et puis peut-être que vous avez le sentiment d'être en train de perdre la foi, vous n'êtes plus très sûr si vraiment Dieu est bon pour nous, ou bien vous êtes en recherche. Dans toutes ces situations, vous êtes les bienvenus dans cette communauté pour être devant Dieu ensemble et écouter ce qui nous dire, ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Nous prions que nous soyons accueillants aussi les uns pour les autres, parce que cet accueil de Dieu, c'est aussi l'accueil que nous voulons vivre dans la communauté. Voilà. Alors nous vivons ces temps de culte sur le thème de la reconnaissance. C'est un peu le leitmotiv, je ne sais pas pour combien de temps. C'était
pour l'année.
Voilà. OK. Alors, cette reconnaissance peut s'exprimer par différentes formes, mais en tout cas, c'est une, je pense, c'est une manière de tourner au regard vers ce qui est vers ce qui est positif et vers ce qui est ce qu'on peut recevoir comme un don de Dieu. Ça peut être le développement de vos petits-enfants, ça peut être différentes choses dans vos vies. Et je crois que c'est aussi une manière de se tourner vers Dieu avec reconnaissance que de ce temps de louange par le chant. Alors, si, là aussi, il peut y avoir des moments, et moi ça m'est arrivé, où on vit des choses tellement difficiles qu'on n'a pas envie de chanter. Ben, si vous n'avez pas envie de chanter, vous pouvez ouvrir votre cœur et garder votre bouche fermée, ce n'est pas grave. Alors, maintenant, je propose que nous aurons deux chants, et après ces deux chants, une personne va donner un témoignage de vie. Et après un troisième chant.
Tu es saint,
l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es
Rédempteur du monde. Je crois que le message de l'Évangile va au-delà de nos besoins, nos saluts personnels, mais qu'il c'est un message pour le monde. Et je pense que le témoignage de Moussa, que j'invite à venir avec Philippe, je crois qu'ils ont prévu des sièges, mais c'est très bien, voilà, va aussi nous ouvrir un peu les yeux sur le monde.
Moussa, sois le bienvenu.
Merci.
Je pense que vous avez déjà rencontré Moussa, son épouse, Monique, la petite Sarah, et puis Aaron et Johan. Moussa, viens, prends place, et puis présente-toi en quelques mots, si tu veux bien.
Bonjour. Je me présente Moussa, je m'appelle Moussa Woba. Je suis marié à Monique, vous connaissez, et nous avons trois enfants, Johan, l'aîné, Aaron, et puis la princesse Sarah, qui a 11 mois.
Et tes grands, ils ont quel âge?
Johan, bientôt en juin, il aura 11 ans.
D'accord.
Ah, et ouais. Aaron a 8 mois, 8 ans.
8 ans, ah ouais.
C'est ça.
8 ans, sois rassuré, Aaron. Alors, Johan, toi, tu vas faire une rentrée au collège l'année prochaine, hein? C'est ça, hein? Tu es déjà au collège? Non?
Pas encore.
D'accord. Ah ouais. Vous habitez où, Moussa?
On habite à Ferney-Voltaire, juste à côté.
Ferney-Voltaire, ouais.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu fais actuellement dans ta vie? Raconte-nous un peu ce que tu fais aujourd'hui.
Alors, je travaille pour l'ONU, pour un bureau qui s'appelle le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme.
Ok.
Bon, en gros, notre travail, c'est de surveiller un tout petit peu ce qui se passe dans le monde, dans les différents pays, par rapport à leurs engagements qu'ils ont signés dans des traités, des conventions pour les droits de l'homme. Ce n'est pas évident dans ce contexte actuel.
Voilà. Ouais. Ah, si le monde était moins compliqué, ça nous arrangerait tous. Mais toi, tu as un travail en plus qui te fait aller sur le terrain, n'est-ce pas?
Oui, j'ai commencé ici à Genève en tant que stagiaire, parce que j'étudie à Lyon, on en parlera.
On va en parler, oui.
Et puis après, j'ai eu des opportunités qui m'ont amené pour le même bureau au Mali, dans la zone des trois frontières où on avait la force française. Et ensuite, je suis allé en République démocratique du Congo. J'ai oublié de préciser que je suis burkinabé, donc je suis du Burkina. Et du Congo, je suis allé au Tchad. Et du Tchad, je suis allé en Mauritanie. Et depuis 2021, octobre, je suis revenu au quartier général. Donc, en gros, le travail sur le terrain, c'est d'aller parler aux victimes pour documenter des possibles violations, essayer de les rassembler dans des rapports dans la perspective de lutter contre l'impunité, donc la poursuite devant les juridictions nationales et internationales s'il y a lieu. C'est vrai que ce n'est pas un travail qui est compris par les États membres, c'est souvent assez difficile. Ouais. Et à côté, il y a tout un travail de soutien aux victimes, les orienter vers... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des cas de violences sexuelles. Donc, d'orienter les victimes vers les centres de soins, donc les structures de prise en charge psychologique. Et puis aussi, aider avec la formation des magistrats, des avocats, des acteurs de la société civile pour l'intégrer. Mais ici, au quartier général, c'est en se basant sur l'expérience que j'ai sur le terrain, donc d'appuyer nos équipes qui sont sur le terrain. Moi, je travaille sur la région des Grands Lacs, donc en RDC.
On en a entendu parler dans notre église, parce qu'on avait reçu aussi, il y a plusieurs années, Tony et Fanny Ouketti, hein, qui sont toujours dans cette région des Grands Lacs.
Tout à fait. Ouais. Et principalement, c'est de soutenir le haut commissaire pour faire des déclarations publiques, suivre des situations dans les pays et interagir. Voilà, c'est vrai que dans un milieu pareil, être chrétien... Souvent, ça permet de faire la différence, de faire le travail pour le Seigneur et pas seulement pour pour l'organisation et selon le cœur, et ça fait la différence.
Il y a quelques mois, j'ai eu le plaisir de venir te visiter sur ton lieu de travail. C'est le palais
Windsor,
hein, au bord du lac à Genève, un lieu... Wilson, pardon. Excuse, autant pour moi. Un lieu impressionnant, j'ai découvert ton bureau, ton activité. Et en préparant un peu le témoignage de ce matin, j'aurais voulu que tu nous expliques un peu la trajectoire de ton village au Burkina Faso à ton activité, à mon avis, décisive aujourd'hui pour les droits humains. Comment ça s'est déployé? Comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu, Moussa.
Alors, c'est un parcours assez long. Je voudrais m'excuser parce que mon épouse me dit toujours que je parle beaucoup. Donc, j'espère que vous aurez assez de temps pour m'écouter. Et c'est vrai ce qu'elle dit. Disons, On a voulu avec mon épouse que je fasse ce témoignage aujourd'hui. On l'a préparé ensemble. Et je voulais d'abord dire que j'ai eu la grâce d'avoir mon épouse, dont le rôle, effectivement, je parle de moi, mais son soutien est extrêmement important.
Wow.
Et je vois que Aaron se signale, les enfants aussi, ils sont. Hein, donc c'est la force que ma petite famille me donne qui me permet de faire ce travail. Mmh. Alors, je suis né dans un petit village à la frontière avec le Bénin. Mmh. Vraiment à cœur ouvert, pour rendre grâce à Dieu pour que je me retrouve ici aujourd'hui en train de témoigner. Mmh. Pour nous, ça relève du miracle. Juste pour situer le contexte, dans mon village, la première fois qu'on a eu une école primaire, c'était en 1985. Donc, à l'époque, j'avais quatre frères et sœurs. Mm-hmm. En 1985, les trois autres avaient déjà dépassé l'âge d'aller à l'école. Et c'est mon frère que je suis directement qui a eu la chance d'aller à l'école. Les trois autres n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mm-hmm. Mon frère est allé à l'école en 1985. Et pour ce qui me concerne, il fallait attendre 5 ans pour que l'État envoie un autre enseignant, donc pour qu'on puisse recruter une autre promotion. Donc, je suis allé à l'école quand j'avais déjà 9 ans, dans des conditions, parce que les parents, auparavant, dans notre famille, il n'y avait jamais eu quelqu'un qui a été à l'école.
Je t'arrête un instant. Mmh. Tu dis, dans vos conditions, tu peux nous en... Tu as la liberté de nous en dire un peu
bien
plus.
Bien sûr, bien sûr. Non, je voudrais vraiment dire cela pour rendre grâce à Dieu. Donc, on a vécu dans une famille où... le mot modeste, on va dire, c'est très faible, c'était vraiment l'extrême pauvreté. Mes frères et moi, nous avons passé, je me souviens, des nuits sans manger. Donc la famille, on l'a vécu. Et les parents, ma mère a dû, à un certain moment, vendre ses propres habits pour payer la scolarité, pour ce qui nous concerne. Ouais. C'était extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, je le témoigne, mon papa est déjà décédé. Mais ma mère, ils ont eu vraiment la sagesse de le faire. Dans toute la grande famille, les autres avaient refusé d'amener leurs enfants à l'école. À l'époque, il fallait négocier les parents pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école. Et donc, voilà, nous amener à l'école dans ces conditions. Je précise, quand j'étais au collège, en classe de 5e, donc on venait me faire sortir de l'école parce que je n'avais pas payé les frais de scolarité.
Ouais.
Autour de 7 500, autour de 13 francs suisses. Et donc un jour, et c'est le premier moment clé que je voulais vraiment raconter, un enseignant d'histoire et géographie qui m'a vu, chaque fois qu'on nous faisait sortir de l'école, je restais juste à côté de la fenêtre. Et le temps que l'intendant reparte pour que je puisse revenir dans la classe. Et il m'a interpellé pour me demander pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Et je lui ai dit, comme on était en fin septembre, j'attendais les récoltes pour que mes parents puissent vendre les produits et nous amener à l'école. Ouais. Et nous payer les frais de scolarité. Et cet enseignant, très touché, a décidé de payer ma scolarité. Et c'est lui qui a payé ma scolarité jusqu'à ce que j'ai le brevet. Et j'avoue que si le Seigneur n'avait pas mis cette personne, j'aurais abandonné.
Ouais.
Voilà. Et donc ensuite, je suis arrivé, je fais l'économie jusqu'à l'université. J'ai décidé de... Parce que en tant que chrétien, je réfléchissais, j'ai fait du droit. Mmh. Et je voulais vraiment faire quelque chose, une filière du droit qui n'est pas orientée vers la recherche du profit, mais qui me permet d'avoir une partie où je peux rendre service aux autres. Et donc, du coup, je fais du droit public. Et à la fin de ma formation, un jour, alors que je suis allé rendre visite à un cousin, je rencontre sa copine qui étudie à Lyon. Et mon cousin me présente et sa copine me demande, mais Moussa, quels sont tes projets pour le futur? Je lui réponds que j'attends de faire les concours de la magistrature parce que je n'ai pas d'autre choix que de faire les concours. Mais sinon, j'aurais voulu me spécialiser dans un domaine des droits humains ou des droits humanitaires. Et c'est là qu'elle me dit, mais écoutez, quand j'étais à Lyon, j'habitais avec une copine qui faisait des études des droits humains. Peut-être que tu pourrais regarder. Et dès que je sors de chez eux, je vais dans un cybercafé. C'était un 30 janvier 2010. Je mets dans la barre de recherche Lyon droits humains. Et vers la fin, donc on m'oriente vers l'Université catholique de Lyon et je vois offre de bourse d'études. Donc je clique et je me rends compte que je remplis les critères. Et malheureusement, la date limite, c'était le 7 février, donc une semaine.
Ouais.
Donc je repars vers le cousin et je lui dis, bah, écoutez, les portes, je viens de voir une opportunité, mais je dois faire le dossier dans une semaine. Alors, mon cousin me propose, il me dit, ah ben écoute, ça doit peut-être être une bonne opportunité pour toi. Si tu arrives à réussir le dossier, je vais payer DHL pour que tu puisses envoyer ton dossier. Mon dossier est arrivé le dernier jour. Et un mois plus tard, je reçois dans ma boîte mail une attestation indiquant que j'ai été retenu. C'est ainsi que je me retrouve à Lyon pour faire un programme de master. J'avoue que je n'avais jamais rêvé, je n'avais jamais pensé à aller dans un autre pays. Donc, je me retrouve à Lyon,
ouais.
Je fais un programme de 2 ans, et vers la fin du programme, en janvier 2012, il y avait une conférence à l'université, et c'est un expert de l'ONU qui devrait animer cette conférence. Je prends part à la conférence, et au moment de la séance de questions-réponses, je pose une question, toute innocente. Et puis, bon, à la fin, il y avait un cocktail. Alors qu'on était en train de partager, l'expert en question vient vers moi et il me demande, vous venez de quel pays et qu'est-ce que vous faites ici? Je dis que, bon, pour l'instant, je dois juste faire un stage pour compléter mon master et mon projet, c'est de repartir au Burkina pour travailler. Et lui me demande, est-ce que vous savez qu'on peut faire un stage dans mon bureau à Genève? Je ne sais pas, mais et il répond en me disant, si vous êtes intéressé, je vous mets en contact avec mon assistant et il va vous aider. Et 3 semaines après, j'avais obtenu un stage ici. Et tout de suite, puisque je ne connaissais pas Genève, je n'avais aucune idée, j'avais une économie de 1500 euros. Je devais me lancer dans la recherche pour obtenir un logement. Et vous comprendrez que c'est à ce moment que je vais tomber sur votre église. Par quel moyen? Donc jusqu'au le stage de...
Je t'arrête parce qu'avant ça, sauf erreur, où c'est en même temps que tu as ce contact dans ton église, il est dans l'église du pasteur Karambiri. Vous qui suivez des fois les programmes de Dieu TV, on entend le pasteur Karambiri. Hein. C'est ton pasteur.
Oui.
Et il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose de fort. Est-ce qu'on est un peu dans cette période-là? Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Alors donc, mon stage devait commencer le 2 avril 2012. Et jusqu'au 30 mars, je n'avais pas pu obtenir un logement parce que c'était très cher, toutes les personnes que je contactais. Je dois aussi ouvrir une parenthèse, c'est une réalité quand vous avez mon prénom, c'est souvent pas facile de trouver une chambre chez un particulier. Et donc, jusqu'au 30, n'ayant pas trouvé une solution, je décide d'en parler à un de mes pasteurs de Karambiri. Il accepte de me donner un peu de temps, une trentaine de minutes pour qu'on prie ensemble. Et à la fin de la prière, il me dit, Moussa, je viens d'avoir une parole, une pensée très forte, et je pense que c'est Dieu qui veut que je partage ça avec toi. Et je t'invite à noter. Lorsque tu vas arriver à Genève, je le cite, tu vas rencontrer une blanche que tu n'as jamais vue, et elle va s'occuper de toi comme si c'était ta mère. Bon, pour être sincère avec vous, je n'avais pas cru. J'ai noté, mais je n'ai pas cru que c'était possible.
Ouais.
Et j'ai continué à rechercher. Et un jour avant, un ami va me mettre en contact avec un diplomate du Burkina Faso qui lui accepte de m'accueillir pour une semaine, le temps que je puisse trouver mon logement ici. Ce qui se passe. Donc j'arrive, je commence mon stage le 2 avril 2012. Et pendant la semaine, je continue d'en parler à mes amis. Et puis un jour, quelqu'un me donne un contact d'une personne qui s'appelle Johanna. Johanna avait fait un stage ici, c'est un frère en Christ aussi, un chrétien. Et Johanna me dit, je vais vous mettre en contact avec une personne qui s'appelle Clémentine. Clémentine est une personne formidable. Et là, ses enfants sont grands, ils ne sont plus à la maison. De temps en temps, elle loue une de ses chambres chez elle. Vous pouvez prendre contact avec elle. Ce que j'ai fait, et tout de suite, elle m'a donné rendez-vous pour visiter l'appartement. À la fin de mon stage, je me présente chez elle. Et elle me fait visiter l'appartement et la chambre. Et m'invite à m'asseoir un petit moment pour qu'on puisse discuter des conditions de la chambre. Et me pose une série de questions, parmi lesquelles mon pays d'origine, la raison pour laquelle je suis ici, pour quelle durée et quel est mon budget. Et dès que je finis de répondre à ces questions, elles fondent en larmes. Et puis bon, moi, je suis... J'étais un peu... Voilà, je ne sais pas comment décrire.
Je vais te dire un secret, elle est un peu comme ça, Clémentine. elle se laisse toucher par les circonstances.
Alors, donc, je lui demande, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, elle répond en me disant qu'avec les éléments que je venais de donner, elle a eu une confirmation d'une promesse qu'elle avait faite à Dieu dans la prière il y a quelques semaines. Parce qu'elle avait demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Et elle a la confirmation que c'est vraiment moi, avec tous les éléments que j'ai donnés. Et qu'elle m'invitait à... Elle me donnait... D'ores et déjà, elle me dit, si vous êtes prêts, comme je sais que c'est Dieu qui veut que je vous donne cette chambre, vous pouvez l'occuper dès ce soir. Et vous ne payerez absolument rien pendant tout votre séjour. Voilà. Elle me dit... Ensuite, comment est-ce que vous voulez faire? Pourquoi est-ce que vous voulez faire un stage de 3 mois? Parce que les stagiaires que j'ai l'habitude d'accueillir, généralement, font 6 mois. Je réponds que c'était par rapport à mes moyens. Et elle m'invite à discuter avec mon superviseur et me garantit que si mon stage est prolongé, je peux y rester tout le temps que ce serait nécessaire. Alors, j'en ai parlé. Mon stage a été prolongé. Je suis resté chez Clémentine. Pendant 6 mois. Et je peux vous le dire que l'amour que je ressentis pour l'accueil, c'était exactement la confirmation de ce que le pasteur m'avait donné comme pensée. Que j'allais trouver une autre maman. Et c'est Clémentine qui m'a montré l'église ici. Et je suis venue ici pour la première fois en 2012. Et voilà, Et le jour quand je suis reparti chez la personne qui m'hébergeait,
oui.
Et j'ai raconté au monsieur, il était tellement surpris, il me dit, est-ce que vous êtes vraiment sûr que, parce qu'il ne croyait, il n'était pas chrétien, vous êtes sûr que c'est ce que vous me dites? Je dis oui, oui. Puis j'annonce que je vais devoir déménager. Et son épouse me dit, mais non, tu ne peux pas déménager, les enfants se sont habitués à toi, tu peux rester ici pendant un moment. Je lui réponds, je dis, j'ai aussi... puisque quand je suis revenu, avant de parler, je suis allé dans un moment de prière. Et je me suis souvenu de la parole que le pasteur avait donnée. Et j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Et j'ai déménagé immédiatement pour aller chez Clémentine.
Wow.
C'est très long, mais...
C'est une trajectoire impressionnante. Aujourd'hui, là, on est en 2026. On a dit qu'on est dans un culte de reconnaissance, de gratitude. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre de cette trajectoire?
Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Je ne suis pas malheureusement entré dans les détails, mais si vous savez d'où je viens, vous vous rendrez compte que absolument rien n'est impossible. Et peut-être que dans nos situations, c'est vrai que pour beaucoup, ce n'est pas forcément la même situation que moi, Je pense qu'on peut avoir aussi des situations qui ne sont pas forcément de la même nature, mais aussi difficiles.
Ouais.
C'est important pour nous, chrétiens, de garder, voilà, de voir en Dieu quelqu'un qui, Dieu qui peut tout.
Amen.
Et donc, je pense que c'est ce que je voulais d'abord partager. Et ensuite, je voulais aussi... Je pense que souvent... On oublie les instruments de Dieu. On est très reconnaissant à Dieu. On oublie souvent les instruments. Parce qu'en tant qu'être humain, c'est important aussi d'encourager. Donc, je suis très reconnaissant à Clémentine. Et je l'appelle maman. Et c'est très, très sincère. Et c'est très profond. Je ne peux pas vous expliquer. Mais quand je l'appelle maman, je le dis de tout mon cœur. Et je vous assure que souvent, quand je discute avec Clémentine, dans ses relations avec Monique, je vois les relations d'une belle-mère avec sa belle-fille, et ça me touche beaucoup. Et c'est la même chose aussi dans ses relations avec mes enfants. Je suis très touchée. Et aussi une reconnaissance vis-à-vis de l'Église. Clémentine m'a fait savoir à l'époque que mon nom était dans... beaucoup de réunions de prière. Donc, il y en a beaucoup ici qui ont prié pour moi sans avoir, m'avoir vu. Et beaucoup aussi, quand je suis reparti à Lyon, ont envoyé des soutiens. Je recevais souvent 300 francs, 200 francs de la part de membres de cette église que je n'ai jamais vu, que je ne connaissais pas. Et puis, enfin... vous dire aussi merci pour très reconnaissant pour l'accueil que vous... Je pense que je suis dans un domaine international, je travaille sur les questions des déplacements et souvent on oublie le côté reconnaissance à ceux qui accueillent. On est beaucoup plus exigeant et on demande beaucoup et on n'est pas... Et donc, pour nous, trouver une communauté ici qui nous a accueillis, et je vous assure qu'on est très, très heureux d'être avec vous. On est très reconnaissant pour ce bel endroit que vous avez fait avec beaucoup de sacrifices, et nous, on profite de cette présence. Donc, vraiment, on est très reconnaissant. Et pour finir, je pense toujours à mes parents, parce que malgré les conditions d'extrême pauvreté, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et pour nous accompagner, mon frère et moi. Et je peux vous dire que tout ce qui est ici, actuellement au Burkina, nous sommes dans une période de guerre.
Ouais.
Tout le village est déplacé. Et parce que je travaille... toute la grande famille ne subit pas la même chose que les autres auraient pu subir. Donc vos soutiens, directement ou indirectement, ont eu un impact. Donc le petit soutien, souvent, parce que j'écoute beaucoup, je suis assez discret, les petits soutiens que vous envoyez souvent, ça change des vies. Donc pour aussi encourager, chaque fois qu'il y a la possibilité, ça change de vie individuellement et de communauté. Je vous avais promis d'être trop bavard, mais voilà.
Merci beaucoup, Moussa. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Cher Seigneur, je te remercie pour le témoignage partagé ce matin par Moussa. Je te remercie pour lui et Monique. Pour Johan, Aaron et Sarah, merci pour ta fidélité dans leur vie. Nous savons que ce que tu as été, tu es et tu seras. Je te prie de soutenir notre frère dans son activité professionnelle. Tu vois les enjeux. Sois lui en aide, Seigneur, ainsi qu'à toutes ces personnes sur le terrain. Et puis aide-nous à recevoir ces paroles. Aide-nous à être ouverts être impliqué, être généreux. Je te remercie pour l'exemple remarquable de Clémentine. Je te prie que cet exemple vienne aussi nous inspirer dans ce qu'on peut être et faire. Que ta grâce et ta paix reposent sur chacun et chacune. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci. Merci beaucoup. Merci.
Juste un mot pour les enfants, hein. Peut-être que vous compreniez mieux maintenant la chance que vous avez de pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier et même étudier longtemps. Hein. Moi, je reviens aussi du Laos où il y a des écoles partout, mais pas toujours des instituteurs et pas toujours et beaucoup d'enfants qui vont pas à l'école ou qui vont trop tard ou qui vont un jour sur deux. Et puis finalement, c'est très limitant pour la vie. Alors soyez reconnaissants de ces possibilités que vous avez. Maintenant, je vais prier pour vous et les moniteurs avant que vous rejoigniez vos groupes. Nous te prions, Seigneur, pour ces enfants. Nous te prions pour Chantal et Rebecca qui ont préparé un atelier pour eux. Nous te prions que tu les bénisses et que tu leur ouvres leur cœur à ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, voilà, alors ils sont déjà dans leur groupe, le caté du dimanche? D'accord. OK. Avant la prédication, un dernier chant qui nous invite à changer, à demander à Dieu de changer nos cœurs.
Échange mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi à ton œuvre, Père. Échange mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière. Consacre-moi à ton œuvre, Père.
Transforme-nous pour ton royaume. Devant toi, genoux, nous te chantons un psaume.
Change nos vies. Et nos envies, rends nos cœurs humbles, nos bonheurs saints. Échange mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi. Ton œuvre, Père, échange mon cœur, gravé de pierre, contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière,
consacre-moi à ton œuvre, Père.
Nous allons méditer ce matin un passage dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et j'aimerais que nous le fassions pour nourrir notre reconnaissance. Mais avant, je ne résiste pas à la douce tentation de citer une parole du Seigneur Jésus lui-même, où il dit Est-ce que je peux avoir la projection, Thierry ? Merci. Où le Seigneur Jésus lui-même dit Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. L'Évangile renverse pas mal de choses. L'Évangile renverse pas mal de choses. La force, la sagesse et la gloire ne sont pas forcément là où on le pense, parce que les apparences sont trompeuses. Et on va essayer de le voir ce matin. La lettre que nous appelons aujourd'hui la deuxième aux Corinthiens, deuxième, parce qu'elle est la deuxième lettre qui nous soit parvenue, fait partie en fait de tout un échange de lettres et de messages entre l'apôtre Paul et une église qu'il a fondée à Corinthe, l'une des plus grandes villes de la Grèce ancienne. Corinthe, c'est une église locale qui se posait beaucoup de questions, qui manquait d'unité, et qui subissait l'influence de gens très convaincants, qui disaient eux-mêmes avoir un statut prophétique ou un statut apostolique bien plus grand que celui de Paul. Dans l'Église, ça bataillait sévère. Et quand je lis ces deux lettres de Paul aux Corinthiens, je me dis que nous avons de la chance, mais ça se travaille la chance, d'être dans une église en paix. Nous avons donc ce matin un culte de reconnaissance, consacré à la gratitude. Comment est-ce que nous pouvons la nourrir, notre reconnaissance ? Voyons un peu comment ce passage commence. Paul va dire, et on lira le texte tout à l'heure, Paul commence le passage ainsi. Mais remercions Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire en union avec le Christ. Remercions Dieu. Le passage que nous voulons méditer pose la question, la gloire de Dieu, elle se trouve où ? Avant de lire le texte, faisons un petit effort de contexte. Mettez côte à côte ce que vous savez de l'Empire romain et ce que vous savez de l'apôtre Paul. Mettez ces choses côte à côte. L'Empire romain, il s'étend alors du Maroc au Liban, en passant par le nord de l'Angleterre, le Danube. Une seule administration gouverne l'ensemble de l'Empire romain. Rome reprend l'immense héritage intellectuel de la Grèce. Son armée écrase tout, ou presque. Sa marine a nettoyé toute la Méditerranée des pirates. Ses ingénieurs construisent des routes, des ponts, des aqueducs, des citadelles. Ses divinités sont partout. Ses riches sont immensément riches. Et face à cet univers romain éblouissant, vous avez un petit bonhomme issu d'une minorité ethnique. Je dis que Paul était petit sur la base d'une tradition ancienne maintes fois répétée dans les Écritures d'alors. Et lui-même dit d'ailleurs que son apparence n'a rien d'impressionnant. Il est seul contre tous, ou presque. Il veut annoncer l'évangile de Jérusalem jusqu'à Rome et de Rome jusqu'en Espagne. Il n'était pas tout à fait tout seul parce qu'il y avait 12 autres apôtres, parce qu'il y avait les chrétiens juifs des origines. Paul avait donc quelques coéquipiers et ça doit être un message pour nous encore aujourd'hui. On n'est jamais seul dans l'œuvre de Dieu et méfiez-vous des solitaires dans l'œuvre du Seigneur. Mais quand il met les pieds pour la première fois en Europe, Paul, avec 2 ou 3 compagnons, il est quand même seul pour porter un projet insensé. Où est la puissance? Où est la gloire? Dans les lectures que nous allons faire, vous serez sans doute nombreux à dire que vous y comprenez rien. Bienvenue au club. C'était ma première impression en prenant ce texte. Les commentateurs n'arrivent d'ailleurs pas toujours à se mettre d'accord sur le sens de certains versets qu'on va lire. Toujours est-il que je suis convaincu que ce que Paul écrivait, c'était clair pour lui. Il n'était pas en train de se dire « purée, qu'est-ce que je suis en train d'écrire ?» C'était clair pour lui. C'était certainement clair pour les premiers récepteurs, les chrétiens de Corinthe. Ils se disaient « ok, c'est clair, ça nous parle ». Alors parfois, pour nous, aujourd'hui, 2026, c'est peut-être un petit peu compliqué. Moi, je ne suis pas un grec du 1er siècle, mais j'essaye de cerner l'essentiel du texte. Et je le trouve extraordinaire, l'essentiel du texte. Et je suis convaincu que ce matin, il peut venir nourrir notre reconnaissance. Une première lecture avec Camille, en 2 Corinthiens 2, 14 à 17.
Je vais lire dans la nouvelle français courant, donc 2 Corinthiens 2, 14 à 17. La victoire en Jésus-Christ. Mais remercions Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de victoire en union avec le Christ. Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu, comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Nous sommes en effet, pour Dieu, comme un parfum du Christ à l'odeur agréable. Nous le sommes parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission? Nous ne sommes pas comme tant d'autres qui se livrent au trafic de la parole de Dieu. Au contraire, c'est avec sincérité que nous parlons de la part de Dieu, devant lui et en union avec le Christ.
Merci Camille. Chez nos voisins français, pour qui j'ai beaucoup d'affection, quand il y a une grande victoire, c'est la fête, non? En France, quand il y a une grande victoire, c'est la fête. À Fribourg aussi. Ah ouais, bien vu. Joli coup, mais je crois que j'ai commencé à écrire ça avant Fribourg. Mais à Fribourg aussi. Mais pensons chez nos amis français, Emmanuel Macron devant le Louvre. Faut le faire quand même. Une soirée spéciale pour les champions olympiques. Descend les Champs-Élysées, en bus ou à pied. On tire des feux d'artifice. On fait chanter des stars. Ah, Céline. On fait décoller la patrouille de France. À Rome, pour certains grands généraux, on organisait à l'époque ce qui s'appelait un triomphe. C'était une grande procession avec le vainqueur en tête. Il était accompagné de ses personnalités à lui. On montrait fièrement certains objets de valeur qu'on avait pu prendre aux ennemis. Derrière le groupe de tête venaient ensuite les chefs vaincus. Vercingétorix, par exemple. Puis après, on avait tous les prisonniers. Dans ces triomphes, on offrait des sacrifices aux dieux. On brûlait l'encens, le vin coulait à flots. Avant de se disperser dans les tavernes, la foule assistait à la mise à mort des ennemis célèbres. Et tous les autres étaient vendus comme esclaves. Gloire au vainqueur, disait-on. Gloire au vainqueur. Que dit l'apôtre Paul face à ça, face à sa culture? Quand il regarde sa culture, que dit-il? Mais remercions Dieu. Il nous entraîne sans cesse dans le cortège triomphal du Christ. Pour Paul, ce n'est pas un général romain qui fête la victoire. Ce n'est pas un dirigeant qui peut se gargariser de ses conquêtes. C'est Dieu en Christ. Et Paul bénit le Seigneur. Le règne, la puissance et la gloire appartiennent au Seigneur, quelles que soient les apparences. Paul, tout petit face à la gloire de Rome, contesté dans une église qu'il a lui-même fondée, Paul est du côté de la victoire, comme un vainqueur en Christ ou comme un prisonnier du Christ. Et Dieu lui a confié un ministère, une tâche, verset 16 de notre texte, qui le dépasse. Paul se sait petit, mais il annonce la parole de Dieu. Ils ne vont pas à une philosophie pour se faire de l'argent sur le dos des gens crédules. Ils n'éditent pas une Bible à son nom. Ils ne s'entourent pas d'une cour servile. Que l'Évangile remplisse l'Église ou qu'il en fasse fuir certains, il est fidèle à l'Évangile. Comme tous les apôtres, il parle de la part de Dieu comme un prophète. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, nous honorons ses écrits, parce que nous croyons qu'il parle de la part de Dieu. Il faut challenger ce qu'il dit, mais il parle de la part de Dieu. Les apparences sont modestes, mais la parole de Dieu est puissante. Et Paul la porte. Et au verset 14, il compare son ministère à un parfum qui se répand. Peut-être pense-t-il à l'encens qui était offert au temple de Jérusalem. Peut-être pense-t-il au sacrifice qui accompagnait le triomphe romain. Mais en tous les cas, Paul voit la diffusion de l'Évangile comme le parfum de Christ qui se répand partout. Certains l'aiment, ce parfum du Christ. Certains perçoivent l'odeur. Ils suivent cette odeur. Ils viennent à Christ et ce parfum leur apporte la vie. Et d'autres disent,
Berk. Tout sauf ça. Et il s'en éloigne le plus possible, un peu comme s'il se retrouvait devant une bouche d'égout. Et s'éloigner de Christ, c'est tourner le dos à la vie. Au milieu de la vie qui se poursuit pourtant, c'est choisir la mort. Et vous, ce matin, vous sentez quoi ? Et les gens qui vous côtoient, ils sentent quoi ? Où est la gloire ? Où est la gloire ? Elle est du côté d'un apôtre contesté et d'un sauveur crucifié. Mais comment convaincre les chrétiens de Corinthe ? Comment les convaincre de ça ? Comment nous convaincre encore aujourd'hui que la gloire est du côté du Christ crucifié ? Qu'elle n'est pas du côté des pouvoirs et des empires, qu'elle n'est pas du côté de la force et de la richesse. Comment convaincre les chrétiens ? C'est là que ça se corse un peu. Paul, il va leur dire qu'ils sont eux-mêmes, les chrétiens, la preuve de son ministère. Et pour faire ça, il va faire une comparaison entre la gloire du ministère de Moïse et la gloire de la Nouvelle Alliance. Il est difficile d'imaginer un personnage de l'Ancien Testament qui soit plus prestigieux que Moïse. Parce que la sortie d'Égypte, c'est lui. La révélation du Sinaï, c'est lui. Les 10 commandements, c'est lui. L'organisation nationale, religieuse, civile, militaire d'Israël, c'est lui. Difficile de faire plus glorieux. Et en même temps, va dire Paul, c'est rien par rapport à l'Évangile. Une deuxième lecture avec toi, Camille. 2 Corinthiens 3, 1 à 18.
Une alliance nouvelle. Cherchons-nous encore à nous recommander nous-mêmes ? Ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander ? C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle est gravée, non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. Nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables de nous mettre au service d'une alliance nouvelle qui dépend non d'un texte écrit, mais de l'Esprit. Car ce qui est écrit mène à la mort, mais le souffle de l'Esprit mène à la vie. Le texte écrit a été gravé lettre par lettre sur des tablettes de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui, et pourtant cet éclat était passager. Or, si le texte écrit, qui a pour résultat de mener à la mort, est apparu avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être l'œuvre de l'Esprit ? Le texte écrit qui condamne a été entouré de gloire. Combien plus glorieuse est la révélation de ce qui rend juste ? Et même, la gloire qui brilla dans le passé s'efface devant la gloire actuelle tellement supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, combien plus ce qui demeure est glorieux. C'est parce que nous avons une telle espérance que nous faisons preuve d'une grande franchise. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites de fixer leur attention sur la disparition de l'éclat passager. Mais ils ont refusé de comprendre. En effet, jusqu'à ce jour, ce même voile est présent quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Il ne leur a pas été révélé que c'est à la lumière du Christ que ce voile disparaît. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. Mais comme il est écrit, lorsque se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, ici, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà, en effet, ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit.
Le premier point fort de cette comparaison entre l'alliance du Mont Sinaï et la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est donc au sujet de la vie éternelle. En théorie, la loi de Dieu, telle que Moïse l'a reçue sur le Mont Sinaï, en théorie, cette loi, c'est un principe de vie. Si nous vivons intégralement ce que Dieu demande de nous, nous sommes en communion avec lui et nous entrons dans la vie éternelle. L'obéissance amène la bénédiction. Seulement, personne n'est à la hauteur. Personne. À une exception près, Jésus-Christ. Du coup, en révélant quelle est la volonté de Dieu, la loi, elle vient démasquer notre péché et nous condamner sans appel. On est cuit. La loi prononce une sentence. Elle inflige la mort, dit le verset 6. Elle conduit à la mort, dit le verset 7. Mais la nouvelle alliance, c'est plus et c'est mieux. Elle était annoncée par les prophètes. Elle ne dépend pas de commandements écrits, mais de l'esprit. Elle repose sur l'intériorité et pas sur les apparences. Le prophète Jérémie a dit que la nouvelle alliance serait écrite dans nos cœurs. Elle permettrait donc la dénonciation du péché, pas du tout. Elle permettrait la nouvelle alliance, le pardon du péché. Elle serait à l'origine d'un peuple dont tous les membres connaîtraient Dieu personnellement, pas seulement quelques-uns privilégiés, mais tout un peuple. Et ça, c'est glorieux. Et recevez ceci au verset 9. La nouvelle alliance conduit les êtres humains à être déclarés justes devant Dieu. La mort de Jésus efface nos fautes. Le don de l'Esprit nous change de l'intérieur. C'est la vie nouvelle portée à l'incandescence. Et Paul insiste sur le côté glorieux du ministère de Moïse. Quand Moïse entrait dans la tente pour rencontrer Dieu, il en sortait rayonnant. Nous disons cela de personnes qui rayonnent de bonheur, n'est-ce pas ? Marié qui sort de l'église sous les confettis, le champion olympique qui monte sur la plus haute marche du podium, le papa qui vous parle de la naissance de son premier enfant. Mais là, il y a quelque chose de plus, qui ressemble un peu à la transfiguration de Jésus. Sur le visage de Moïse, il y avait comme une lumière qui rayonnait, au point que Moïse mettait un voile. Il ne voulait pas que le peuple voie la gloire de Dieu qu'il reflétait. Cette gloire, même passagère, nous dit que Moïse, c'était quand même quelqu'un. Mais la gloire qui rayonnait sur le visage de Moïse, était une gloire qui ne tenait pas longtemps, nous dit le texte. Alors que la nouvelle alliance nous fait entrer dans une gloire éternelle. Dans la présence de Dieu, Moïse, il ôtait son voile, et à ce moment-là, sa communion avec Dieu était directe et sans obstacle.
Mais nous, maintenant, en Christ, nous avons un accès permanent à la présence de Dieu même, directement, sans voile. Et ça, mes amis, c'est glorieux. Moi, je trouve que la comparaison de Paul, elle est un peu osée. Parce que Moïse, ministre de l'Ancienne Alliance, participe à la gloire de Dieu. Paul et les autres apôtres, ministres de la Nouvelle Alliance, participent plus fortement encore à la gloire de Dieu. Et, dit-il, nous tous, chrétiens et chrétiennes, nous participons à une gloire éternelle. C'est osé, vous ne trouvez pas ? Cela ne paraît peut-être pas, mais nous sommes des petites gens ici. Nous sommes des petites gens. Mais les apparences sont trompeuses. Les petites gens que nous sommes accèdent à la gloire de Dieu. Pas par la loi, par Jésus-Christ. On relit une dernière fois la conclusion que Paul apporte avec toi, Camille.
Donc c'est les versets 16 à 18. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, ici, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons en Christ, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà, en effet, ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit.
C'est la conclusion de Paul et ça sera donc la mienne. Parce que ces quelques versets à la fin du chapitre disent quelque chose de magnifique par rapport à la vie chrétienne. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Pas de face, mais comme dans un miroir. Alors, il ne faut pas penser au grand miroir de votre salle de bain. Il faut penser à ces vieux miroirs à l'ancienne, faits de bronze poli. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, la puissance de sa gloire est atténuée pour nous, et c'est tant mieux. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Pas de face. Comme dans un miroir. Je me pose donc la question, quand est-ce que je contemple la gloire de Dieu ? Quand je ferme les yeux et que je prie ? Peut-être. Mais à condition que cette contemplation soit nourrie de quelque chose. Dieu a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Quand nous contemplons Jésus-Christ dans les évangiles, quand nous réfléchissons à son œuvre en lisant les prophéties ou les épîtres, quand nous prenons le temps de la méditation, il y a quelque chose de sa gloire qui rayonne vers nous et qui nous fait rayonner. Oubliez là toute idée de contemplation béate. Pensez pas à une sorte de yoga chrétien. Paul dit aux chrétiens de Corinthe que c'est par la communion avec le Seigneur qu'ils sont transformés. Et transformés de gloire en gloire. Et que c'est l'œuvre de l'Esprit. Être dans la présence de Christ fait que nous devenons de plus en plus ce que nous aurions toujours dû être. Parfois, l'Esprit vient provoquer une secousse intérieure. Il y a comme une grosse ombre ou un gros poids qui disparaît tout d'un coup. Et puis parfois, la lumière, elle s'installe petit à petit, presque imperceptiblement. Et en fin de compte, la gloire d'être un enfant de Dieu deviendra de plus en plus manifeste, jusqu'à ce jour que nous attendons, où nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Qui était Paul face à la puissance de Rome? Qui sommes-nous face à la culture de notre temps? Qui sommes-nous comparés à un géant comme Moïse? Souvenons-nous que les apparences sont trompeuses et que la réalité est glorieuse. Le royaume de Dieu auquel nous sommes attachés, mes amis, ce n'est pas un supplément aux royaumes existants. C'est la seule alternative. Nous sommes associés au règne, à la puissance et à la gloire de Dieu lui-même. Nous sommes associés au règne, à la puissance et à la gloire de Dieu lui-même. Ça, c'est la vérité des choses. Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Amen.
On a tant parlé de lui et tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquant l'humiliation. Jésus, merci pour la croix.
sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si grand et vrai.
C'était nos manques, nos fautes, nos souffrances qu'il a portées sur la croix. La croix, c'est aussi le lieu du pardon reçu, du pardon à accorder, qui nous libère aussi. Et puis la croix, comme Philippe l'a dit, renverse beaucoup de choses. Renverse notre conception du pouvoir et de la gloire et nous appelle à une vie à la suite du Christ, de non-violence et de service. Et je ne peux m'empêcher de penser à cet ami, le docteur Pafix, que j'ai vu pour la dernière fois dans mon voyage au Laos et avant-hier. Il est parti pour rejoindre son Seigneur. Et je l'ai su dans la demi-heure qui suivait, parce que les amis nous ont on fait un appel de groupe sur Messenger pour annoncer qu'il était parti. Et je pense à lui parce que c'est un homme qui est un modèle d'une vie de service, de service dans l'Église et de service auprès de ses compatriotes pendant plus d'un demi-siècle. Voilà, donc, reconnaissant pour le témoignage de cet homme. Le soir venu, Jésus était à table avec les 12. Et déjà, dans le drame qui se prépare, il annonce qu'un de ses disciples va le trahir. Et pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, puis le donna à ses disciples. Et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour une multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume des cieux. » Le pain que nous rompons, et la communion au corps de Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance versé pour nous et pour la multitude. L'invitation s'adresse à tous de participer à cette communion. Et dans la liberté, pour tous ceux qui reconnaissent le sens et la valeur de ce qu'a fait le Christ et qui expriment leur communion avec lui, peuvent prendre la scène très librement. Et si vous ne sentez pas, ce n'est pas une question d'être digne, hein, on est tous indignes. Si pour vous ça n'a pas ce sens-là, vous pouvez laisser passer aussi librement les éléments. Philippe sera là pour donner la coupe à ceux qui désirent la coupe. Voilà. Est-ce que quelques personnes, peut-être le groupe de louanges et deux autres personnes peuvent venir pour nous aider à la distribution ? Pendant ce moment, vous êtes libre d'exprimer une prière de reconnaissance ou de demande au Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie donnée. Apprends-nous à vivre de ton pardon et à pardonner à notre tour. Apprends-nous à vivre une vie de service à ta suite. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés. Amen. Nous passons maintenant à un temps d'offrande. C'est aussi une forme de service. La vie de l'Église dépend des offrandes volontaires et libres de chacun, que ce soit pour les personnes qui travaillent, l'équipe pastorale, pour le bâtiment et les différents services, et aussi notre participation à la Fédération romande d'Églises évangéliques pour son service, ici comme à l'étranger. Merci Seigneur pour cette offrande. Merci pour cette église dans laquelle nous sommes accueillis et dans laquelle nous pouvons vivre ensemble notre foi, partager nos questions et nous soutenir les uns les autres. Amen. Je vous invite à vous lever pour une parole de bénédiction. Jésus ressuscité dit à ses disciples, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Que le Seigneur vous accorde sa présence tout au long de cette semaine, où vous êtes envoyés vers chacun de ceux que vous rencontrerez. Bonne semaine. »